Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin.
Bonjour Monsieur Juchor, je suis avec vous pour évoquer la mémoire de vos deux garçons qui, à 9 ans d'intervalle, se sont tués au volant de leur moto. D'abord Geoffrey en octobre 2011 et Gaylor en juillet 2020. Et donc votre famille a subi cette épreuve tragique qui fait que aujourd'hui vous êtes sans vos deux enfants, c'était vos deux garçons. Vous n'avez plus d'enfants, vous avez encore des petits-enfants, mais il se trouve que en juillet 2020, Gaylor a été tué au volant de sa moto car percuté par un chauffard qui les a donc, je le disais, percuté. Et Gaylor, à ce moment-là, était avec votre petite fille, sa fille, Laura, qui a 15 ans, qui elle aussi est décédée dans cet accident tragique. Vous avez la gentillesse de nous recevoir chez vous avec votre épouse qui est Nicole, et je voulais savoir dans quel état d'esprit êtes-vous après ces drames qui ont lourdement touché votre famille. Et je sais que vous attendez toujours, 3 ans après le décès de votre second fils, les indemnités qui vous sont dues au titre de cet accident pour lequel le chauffard a été condamné à 7 ans de prison. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous, monsieur Juchor?
Pas très bien. Nos nuits sont très perturbées. Les nuits, on dort très peu. Et voilà, quoi. On peut pas se remettre d'un drame comme ça, quoi.
Est-ce que vous pouvez me dire, je reviens sur le dernier accident, enfin l'accident qui a coûté la vie à votre petite fille Laura et à votre garçon Gaylor, c'était donc en juillet 2020. Est-ce que vous pouvez me redire les circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit?
Oui, nous avons passé la fin de soirée chez nous, en compagnie de ma sœur, de mon fils, ma petite fille, mon épouse. Donc on a passé un repas, et mon fils, ne repartant jamais très tard le soir, enfourchait sa moto avec sa fille et rencontrait un assassin sur la route.
Vous parlez d'un assassin, d'un criminel?
Un criminel. Un criminel, récidiviste, j'appelle ça des criminels, des assassins. Et un assassin, aussi bien de la chasse, il en est capable.
Et vous m'avez dit qu'il était récidiviste, mais aussi qu'il n'avait plus de permis de conduire.
Oui, il n'avait plus le permis de conduire depuis 2018, donc c'est un récidiviste troisième fois.
Voilà. Et vous avez, vous en voulez évidemment à cet homme qui a ôté la vie de votre fils et de votre petite fille, et vous en voulez également à ses parents.
Oui, exactement. Les parents sont responsables. S'ils avaient fait le nécessaire d'enlever les clés et l'interdire de rouler avec le véhicule, aujourd'hui, on ne vivrait pas ce deuxième drame.
Alors, le procès qui a eu lieu quelques mois après l'accident, a révélé que cet homme-là, qui a été celui qui a causé la mort de votre fils et de votre petite-fille, était fortement alcoolisé et également sous l'emprise de stupéfiants. Vous pouvez me le confirmer?
Oui, je vous confirme. Donc, il avait 1,80 g et il avait consommait énormément de rosé de toute la journée, parce qu'il bricolait au niveau d'un gabion avec un copain. Et le soir, il a été s'alcooliser dans un bar à Lisieux, dont il a bu plusieurs consommations. Les consommations ont été retrouvées dans sa poche, le ticket. Et il avait fumé beaucoup de cannabis dans la journée.
On imagine votre souffrance, votre douleur, je le sens aux côtés de votre épouse qui travaille. Vous êtes à la retraite aujourd'hui, vous avez eu une longue carrière de cuisinier dans un hôpital à Lisieux. On imagine votre souffrance, votre douleur d'avoir perdu vos deux enfants. On imagine aussi votre colère à l'égard de la justice. Vous avez l'impression que ça n'avance pas assez, ça n'avance pas vite, et que les peines sont peu proportionné par rapport à la peine que ça vous a, vous, causé.
Voilà, au point de vue condamnation, c'est pas suffisant. Et au nom de la justice, ça reste qu'un accident. Non, c'est un assassinat, c'est du criminel. Et voilà, quoi. La justice ne voit ça, retient qu'un accident. Non, c'est pas un accident.
Alors, je sais que près de chez vous, là où a été c'est tué votre fils, qui a été renversé par cette voiture, par ce chauffard, il y a le poteau où ça a eu lieu, et qui est toujours recouvert de fleurs, et vous ne savez pas qui dépose ces fleurs, c'est ça ?
Oui, oui, le poteau est toujours fleuri. Et on remercie les personnes ou le copain ou des amis à mon fils qui fleurissent le poteau très régulièrement.
Parlez-moi de Gaylor, votre fils. Après, on parlera de Geoffrey, mais parlez-moi de Gaylor qui a été tué au volant de sa moto en juillet 2020.
Oui, ben c'est un jeune homme passionné, respectueux de son travail. Et passionné de la mécanique, passionné de Johnny Hallyday, c'était son idole, il y avait du Johnny partout dans la maison, voilà, la moto était représentatif vis-à-vis de Johnny.
Oui, vous m'avez dit qu'elle était décorée avec, comme si c'était la moto de Johnny.
Johnny, oui, c'est exactement la même moto de Johnny, bon, simplement, c'était qu'une 125. Hein.
C'était une petite cylindrée.
C'est une petite cylindrée, voilà, tout à fait.
Fait de vie. Philippe Bertin.
Votre autre fils qui, lui, s'est tué à moto près de Lisieux, à Lisieux, Geoffrey, lui, il avait une très grosse moto.
Oui, Geoffrey, c'était différent. C'était un motard. Donc, lui, il avait le permis pour cette moto. C'était une moto 600 Hornet. C'était pas non plus une grosse, grosse moto. Mais bon, voilà, c'était un passionné de la moto.
Mais le jour de l'accident, le jour de cet accident mortel de Geoffrey, il ne roulait pas vite, il était dans un virage et vous semblez dire que peut-être a-t-il été gêné par un obstacle par surprise.
Oui, nous supposons que soit qu'il a été par un obstacle, un gibier, ou alors ébloui par le soleil, parce que cette journée-là, il y avait énormément de soleil, ou avoir eu peut-être un frelon dans le cou au niveau du casque, ou une autre supposition, peut-être un malaise, ou voilà, parce que c'est pas la vitesse, il descendait de la route de Paris, et on a eu des témoins qui nous ont dit que c'était pas la vitesse qui était en cause.
Daniel Juchor, lorsque on évoque la mémoire de vos deux garçons, la mémoire de votre petite fille, Laura, qui est en photo là près de nous, qui était au collège, qui était une élève sérieuse et qui donc a été tuée avec son père par ce chauffard que vous qualifiez donc d'assassin et de criminel. Quand on évoque cette mémoire et quand on revoit ces derniers instants qui ont été les vôtres avec vos deux enfants, Geoffrey et Gaylor, comment on fait pour tenir ?
Ben, donc j'ai une épouse qui est extraordinaire, donc on se soutient et pas mal de familles et des amis qui sont autour de nous pour voir qu'on se rencontre ou qu'on soit invité. Voilà, c'est ce qui nous fait tenir un peu quand même.
Vous avez tout perdu, ces deux jours tragiques, tant pour Geoffrey que pour Gaylor. Il ne vous reste plus personne autour de vous ?
Ben non, il ne nous reste plus personne, juste nos trois petits-enfants qui restent, qu'on essaie d'être là pour eux le mieux possible, avec le plus grand respect. Et j'espère qu'on aura un retour envers eux par la suite, dans les années à venir.
Vous m'avez dit que lorsque vous avez eu l'occasion de discuter avec votre petite fille, Laura, notamment le soir, le dernier soir où vous avez dîné avec elle avant qu'elle n'enfourche la moto avec son père, vous évoquiez son avenir, vous lui avez dit que vous alliez l'aider, notamment à obtenir son permis de conduire, à financer son permis de conduire et voire même à s'acheter sa voiture, sa première voiture. Elle n'avait que 15 ans, mais quand elle aurait sa majorité, c'est ça ?
Voilà, c'était des étapes. J'avais promis que on lui financerait son permis et après les étapes à venir, ce serait de lui financer sa voiture. Avec mon épouse, on avait prévu de financer la voiture à venir et on avait prévu de lui fêter ses 18 ans à la maison ou alors dans une salle avec toute la famille et les amis qui nous entourent.
Vos deux garçons reposent dans le caveau familial, dans le cimetière tout près d'ici. Je sais que vous vous y rendez souvent, mais je sais aussi que vous souhaiterez à l'avenir quitter la région sans être trop éloigné pour pouvoir toujours rendre visite à vos enfants. C'est insupportable de rester ici, là où vos enfants ont perdu la vie ?
Oui, c'est un projet qu'on s'est mis avec mon épouse. Quand on va tomber à la retraite, donc on vendra notre pavillon à Saint-Cyr, de façon à se rapprocher du côté de la Vendée, mais pas plus de 500 km, de façon à pouvoir venir nous recueillir 3, 4 fois dans l'année sur la tombe de nos enfants.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire si vous aviez en face de vous celui qui a causé la mort de Gaylor en juillet 2020?
L'envie de lui lire en face, et j'ai envie de lui ôter la vie, quoi, tout simplement. Parce que quand on est, ça reste pas un accident, quand c'est 3 fois récidiviste, et qu'on dit qu'on a tué des animaux, avoir cru percuter des animaux sur la route, là, il mérite qu'on lui supprime la vie.
Vous ne lui pardonnerez jamais.
On ne peut pas pardonner, c'est pas possible. Aussi bien que pour ses parents. Ils sont complice du drame qui s'est arrivé. Et je vais même plus loin, aussi bien que le barman qui lui a servi l'énorme bière au bar, il est responsable. Et quand on tient un établissement, on laisse pas les clients partir avec un taux d'alcool énorme comme il avait vu son client partir.
Les parents de ce chauffard habitaient pas très loin de chez vous. Nous sommes tout près de Lisieux, dans ce petit village paisible. Et vous m'avez avoué, vous m'avez confié qu'un jour, après la mort de votre fils Gaylor, vous êtes allé chez eux.
Oui, je suis allé avec ma voiture. Je suis rentré dans le domaine et j'y avais été armé. J'aurais pu les abattre en travers la vitre avec une 22 ou autre arme.
Vous regrettez d'être allé aujourd'hui avec le recul?
Non, je ne regrette pas d'avoir été, mais si j'avais été armé, peut-être que là, ça aurait été dramatique. Donc, j'aurais mis le restant de ma vie en l'air et détruire mon couple. Et aujourd'hui, ben, je serai en prison.
Votre épouse est à vos côtés, vous vous soutenez mutuellement, vous vous aidez l'un l'autre, et je crois savoir que vous ne vous faites pas aider par un médecin, ni même par des médicaments. C'est justement cette force à vous deux qui vous permette de tenir.
Oui, j'ai une femme extraordinaire, donc on se soutient énormément, et voilà, avec les amis autour de nous qui nous aident à tenir, quoi.
Je reviens sur la justice. Elle ne vous a pas indemnisé. Vous avez financé vous-même les obsèques de vos enfants, et notamment, enfin, l'obsèque de Geller. Et sans vous y ayez d'argent, vous n'auriez pas pu financer tout ça. Ça vous a coûté quand même près de 14 000 euros, je crois.
14 000 euros, oui. Disons que bon, nous sommes des gens qui sont économisés, heureusement, parce que autrement, ben, il serait venu nous mettre le huissier et nous saisir la maison ou un véhicule pour pouvoir payer la facture des obsèques.
Monsieur Juchor, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux vous dire pour les années à venir?
Ben, disons que nous, on voudrait que ce drame au niveau du tribunal en finisse, qu'on reçoive plus de courrier et qu'on puisse un petit peu continuer à avancer, si on peut dire avancer, quoi.
Merci.
Voilà, merci bien.
Podcast by Tendance Ouest.